À ma gauche, j'ai Annick. Bonjour Annick, ça va ? Non, pas encore, on va envoyer tout à l'heure, tranquillement. Annick qui est à la vidéo, bien sûr, aujourd'hui. Puis là, paf, succédant à Sophie, voici Fabien, qui est en pleine forme aujourd'hui, qui nous fait le son. Et puis, je dois le signaler aujourd'hui, nous avons Wolf Division, Vision Digital, qui nous écoute de l'autre côté, qui lui s'occupe de nos petits réseaux. C'est le Community Manager. Merci d'être là avec nous. On est en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Insta, sur Thread, sur TikTok, sur X, et sur, dans la vie réelle, peut-être aussi, ça existe. On est là, partout. Et face à moi, j'ai Thierry Alcaraz. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ravi de faire votre connaissance.
Oui, ravi aussi.
Vous êtes un grand monsieur du théâtre finalement.
Oui, en tout
cas. Vous connaissez un peu le lieu, je crois.
Oui, j'ai connu le lieu il y a très longtemps. Ça s'appelait le Bourgneuf avant, effectivement. Oui, tout à fait.
Vous l'avez dirigé ? Vous avez travaillé ?
Non, je travaillais avec Dominique qui s'occupait de ce lieu, la programmation, et qui le dirigeait. Et il m'avait demandé de travailler sur certains projets d'accueil de quelques résidences. Et j'avais créé ici quelques spectacles, mais il y a longtemps de ça.
Ah bah oui, bah écoutez.
Voilà, donc. Je suis ravi que ça perdure avec une autre équipe.
Aujourd'hui, c'est Artefil. Ouais,
exactement.
Et dans les locaux, il y a Osmose Radio.
Exactement.
Et voilà. C'est l'occasion de vous rencontrer.
J'ai découvert. Ouais.
Alors, on vous rencontre parce que vous allez nous parler d'une pièce. C'est un peu spécial. C'est du théâtre documentaire que vous allez nous présenter, qui s'appelle donc Des miettes sur la table et qu'on va avoir l'occasion de découvrir le 16, le 17 et le 18 mai au Delirium à Avignon. Ouais. Mais avant, c'est aussi un texte.
Oui, c'est le 15, 16 et 17.
Ah oui, je
c'est juste
trompé.
Un peu décalé.
Oui, voilà. C'est pas grave. J'ai toujours été un peu
décalé. Un peu décalé.
Donc
ça 15,
16, 17.
Le jeudi, vendredi, samedi, exactement.
D'accord. Des miettes sur la table.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, les miettes sur la table, en fait, si on part du titre, les miettes sur la table, très, très souvent, on a beaucoup de souvenirs, et certains ont des souvenirs dans les familles. En fin de repas, on a toujours ces miettes sur la table où on joue à faire des dessins. Quand on termine le café, quand on termine, on a toujours ces miettes qui restent. Mais c'est aussi une métaphore aussi des miettes de la vie et de ce qu'il se passe par rapport à la situation de la mère vieillissante.
Ou de ce qui reste
et qui est un peu fragilisée. Et donc, il y a un peu ce rapport-là. Et en fait, c'est le retour aux miettes dans tous les sens du terme, le retour à la fragilité de l'enfance. Quand on est plus âgé, on revient à une forme de fragilité aussi et de dépendance parfois. Et puis c'est aussi parce qu'elles se retrouvent, c'est les deux sœurs et la mère se retrouvent aussi autour de cette table, et effectivement avec des repas où il reste ces miettes et qui les renvoient au rapport de la famille. Et qu'est-ce qui reste de la famille ?
Voilà. Il y a peut-être l'ennui aussi, parce que quand on les tripote, ces miettes, c'est que on s'ennuie un petit peu aussi.
Ouais, c'est de l'ennui, et puis c'est toujours ce qui reste, et puis c'est de faire des dessins, et ensuite c'est aussi l'imaginaire, c'est un peu tout ça, et puis c'est l'attente de quelque chose, et puis c'est le reste d'un repas, c'est le reste de quelque chose, c'est le reste de la vie.
D'une famille aussi, parce que le repas est souvent familial.
Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il reste à vivre.
Les fragments.
Parce que la question de cette pièce aussi, c'est qu'est-ce que la vie ? Avant tout, quelque chose d'éphémère.
Alors là, on est dans un vieil appartement.
Oui, dans l'appartement de quand les deux petites filles étaient jeunes et vivaient là avant de l'une, en tous les cas, partir. Mais la mère est toujours restée là.
La mère s'appelle Carmen, je crois.
La mère s'appelle Carmen.
Elle est âgée, elle commence à affaiblir.
Elle est âgée, mais au-delà d'âgée, elle est fragilisée, parce qu'elle n'est pas si âgée que ça. Hein. Elle a autour des 65, 67 ans.
D'accord.
Donc elle n'est pas si âgée que ça.
Oui, on l'imagine très vieille, en fait.
Exactement, quand on le lit. Non, puisque c'est une forme de fragilité qui est arrivée plutôt assez tôt dans sa vie. Et par rapport à son histoire et ce qu'on découvre un petit peu. Et donc, non, elle est autour des 65-67 ans.
Hein. D'accord. Dans cet appartement chargé de toute l'histoire de cette famille, là, qui va être représentée par trois personnes, trois femmes.
Trois femmes.
C'est volontaire, le fait que ce soit trois femmes
Oui, ça a été volontaire. C'est parce qu'effectivement, j'ai voulu absolument. En fait, je pouvais pas parler. On parle que de soi-même.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire. Quels que soient les personnages, c'est trois prismes différents.
D'accord.
Moi, ça fait 25 ou 30 ans que j'écris des pièces et je raconte toujours un petit peu la même chose à travers un regard, à travers des personnages. Donc, utiliser les trois femmes, c'est en fait c'est mon histoire familiale, mais qui est retranscrit au féminin.
D'accord. Donc il y a Carmen, oui. Il y a une fille, Camilla.
Camilla, la grande.
Celle qui reste.
Celle qui reste, celle qui est toujours restée à la maison.
Mmh. Et
qui
ah oui, depuis l'enfance, puisqu'elles sont là depuis l'enfance, cet appartement.
Exactement.
Ouais. C'est leur vie, quoi.
Voilà, et Camilla est restée auprès de sa mère parce que le père est parti très tôt.
Mmh.
Et la petite sœur, donc
Luna,
qui va arriver. Elle a pris la décision, volontaire ou involontaire, peut-être pour se sauver de ce monde-là, de cette ambiance-là, a décidé très tôt de partir loin de chez elle pour faire sa vie.
Oui, parce que c'est pas évident.
Parce que c'est pas
c'est dur. Hein. C'est,
ouais, c'est ça.
C'est les aidants. C'est quand même une.
Ça raconte exactement. C'est oui. Les aidants, mais au-delà des aidants, c'est comment on essaie de sortir d'une forme de dépendance aux parents. Quand on cristallise, quand on fixe quelque chose par rapport à comment on se positionne vis-à-vis du parent aussi.
Mmh, vous le dites dans la préface, hein, on devient un peu le parent du parent.
On devient le parent du parent et on devient en même temps, pour ceux qui décident de rester et de sacraliser au-delà de l'aidant, pour certains je dis bien, il y a aussi le fait qu'on ne veut pas faire tomber le totem et la position du parent.
Mmh.
Parce qu'aussi on peut rester un enfant, ce qu'on appelle tyran.
Ah oui.
Ben oui, l'enfant tyran, c'est le refus de voir le parent qui change et qui évolue. Donc c'est d'essayer de le laisser dans sa position première, qui est la mère ou le père, qui est dans une position très élevée. Et là, la question, elle est justement de voir ce totem qui est le parent se fragiliser. C'est d'un côté un refus pour la grande sœur qui reste, et donc ça va donner à des tensions très très violentes de ce déni de réalité. Parce qu'en fait, cette pièce, ça raconte le réel. C'est pour ça que c'est documentaire. C'est parce qu'on.
C'est ce que j'ai voulu demander, oui.
Exactement. C'est parce qu'on est totalement dans une forme d'essayer de communiquer le plus possible le réel. Et le réel, il est parfois très difficile parce qu'on montre tout. On montre le quotidien. Il est cru, il est direct, il est tendre, il est avec des yeux d'amour. Mais au-delà de cet amour que l'on porte, il y a ce rapport qu'on a aux parents. Mmh. Aux parents finissants, aux parents fragilisés.
Oui, la dureté
de la réalité et du réel. Et avec le prisme de l'une qui accepte, qui est partie et qui s'est un peu émancipée et qui a mis de la distance... Donc qui a pu grandir par elle-même, et l'autre qui s'est sacrifié. Et le sacrifice coûte très cher.
Oui.
Coûte très cher. Et donc, est-ce que le sacrifice est un acte d'amour? Ça pose la question. On peut se poser la question quand on sait ce qui va se passer dans la pièce.
Dans une philosophie judéo-chrétienne, oui.
Oui.
Mais est-ce qu'on est toujours là-dedans?
Exactement, mais dans quelque chose de plus psychanalytique, le sacrifice se raconte aussi autre chose par rapport à l'enfant qui a voulu cristalliser dans son enfance quelque chose.
Surtout que dans la réalité quotidienne, les aidants souffrent énormément. On voit des
gens
qui basculent, qui tombent malades, qui ont besoin d'aide, justement, aussi.
C'est une vraie question, effectivement, dans la société, dans cette question sociétale. C'est, au-delà d'être aidant, il faut avoir les capacités de l'être. C'est très difficile, et c'est pour ça la souffrance des aidants, elle est parce qu'ils n'ont pas de recul. Parce que les aidants, c'est très souvent en aide de la famille, et très souvent les parents.
Oui, puis très peu de reconnaissance derrière, parce que jusqu'à présent, on n'en parlait pas beaucoup, ni rien.
Il n'y a pas de reconnaissance, même aujourd'hui, on en a parlé parce que ça a été un effet, mais ça va retomber dans l'oubli très très vite. Il n'y a pas eu de déblocage, en tous les cas,
de
financement, il n'y a pas eu de reconnaissance. Il y a quelques petites choses, petites avancées. Mais il y a un refus d'entendre ça parce que ça remet en question énormément de choses et ça questionne aussi de qui est capable d'être un aidant. Est-ce que parce qu'on est un parent et qu'on est obligé d'aider par amour ou par nécessité, on est le mieux placé?
Pas évident.
Et c'est ça,
en
c'est
tous les
évident.
Cas, on revient au théâtre, oui. On revient au Delirium le 15, le 16 et le 17 mai. N'oublions pas, c'est à 20h30. Hein. C'est réservé à un public restreint, 30 personnes, je crois.
Oui, c'est un public restreint. Parce
il y a cette volonté quand même de...
Oui, ça restera toujours comme ça, parce que on accueille le public dans l'appartement. Mmh. Donc ils viennent dans l'appartement. Ils vont s'installer sur des chaises, des fauteuils, directement à proximité, puisque la scène se passe à 2 mètres. C'est-à-dire que c'est en deux parties, 2 fois 15 personnes, qui sont l'une du côté de la chambre à coucher et de la salle de bain, mais qui verront donc la cuisine et la table par l'arrière, et un autre public qui est plutôt côté cuisine.
D'accord.
Voilà, et donc il verra avec au loin la chambre et la salle de bain.
On est dans
donc
un huis clos.
C'est deux perspectives.
C'est cet appartement.
Exactement.
La déco, c'est ça, vous avez mis le vieux canapé.
Il y a le vieux canapé qui est ouvert, il y a la cuisine, les fenêtres évidemment sont ouvertes et donnent à l'extérieur, et donc la lumière, c'est le jour qui va se coucher, qui va tomber aussi, hein, puisqu'on démarre à 20h30, et donc la pièce dure 1h05. Donc le public va voir aussi l'évolution du temps en direct.
Ah, vous avez tout calculé.
Mais oui,
oui,
parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir le temps qui passe à travers cette nuit qui tombe. Et ça, c'est très intéressant.
Et à travers cette famille
qui... évolue sur plusieurs temps. Et il y a des temps et des silences et des moments du quotidien qui est la toilette. Quand on nettoie, quand on se... Il y a un an... Voilà, il y a le texte, évidemment, mais il y a tous ces moments de vie.
Il y a la tension.
Et il y a
entre les deux sœurs, entre.
Et bien sûr.
C'est tendu quand même tout le long, comme ça.
Bah, c'est tendu parce qu'on se retrouve face à une situation qui va déraper.
Oui, puis des reproches qu'on n'ose pas se faire. Des
reproches qu'on n'ose pas te faire, et puis il y a l'enfance qui arrive. Et puis il y a la réalité de l'angoisse et de la peur de devenir orpheline. Parce que c'est un terme qui est peu utilisé, mais quand on a perdu ses deux parents, quel que soit l'âge que l'on a, c'est une forme. De rapport que nous avons à faire d'un rapport
on est bien puis cette idée de se projeter aussi
c'est cette idée de se projeter et c'est cette idée de ne pas réussir à se projeter parce que la réalité de la mort on ne la conçoit pas la nature humaine ne conçoit pas la réalité de la mort sauf quand elle est confrontée très tôt et heureusement qu'on n'a pas conscience en permanence que nous sommes des mortels parce que ce serait terrible dans la vie déjà qu'elle est complexe.
On dit tout le temps vivre comme si c'était le dernier jour.
Oui, c'est ça, toujours. Ouais. On essaie. Et c'est vrai que c'est pour ça que très souvent, il y a des témoignages de gens qui sont passés proches de la mort et qui ont eu une maladie très complexe et très compliquée, qui ont une réalité beaucoup plus vive que la vie s'arrête. Et le questionnement de cette pièce, aussi au-delà de ça, des trois sœurs et de cette mère, c'est en fait, on nous a donné la vie. Je ne sais pas qui, quel que soit, mais en tous les cas, on nous la reprend. Est-ce que c'est presque une injustice ?
Oui.
C'est presque une injustice de se dire, bon, on nous a donné la vie.
Puis l'injustice, c'est surtout la décadence.
Exactement.
La dégradation.
Bah, y a ça aussi.
C'est le thème un peu de
oui,
la pièce.
Oui, exactement. C'est la dégradation, bien évidemment.
Alors, le thème documentaire, c'est aussi, parce que vous l'avez composé, créé, comme un documentaire, c'est-à-dire en... prenant des faits réels.
Exactement, c'est toujours issu de faits réels, c'est toujours issu de rapports et de scènes qui ont déjà existé, que j'ai rapportés voilà, dans mon existence, dans ma vie ou dans la vie de proches. Et documentaire, c'est parce qu'il n'y a aucun artifice. C'est-à-dire que le rapport au réel, c'est ça qui m'intéressait. Il était impossible dans ce travail-là de mettre des projecteurs et que le public puisse à un moment donné se sentir dans une salle de spectacle. Autant dans son confort, puisqu'on enlève le confort au public, puisque toutes personnes qui vont venir accompagner seront séparées.
Ah,
voilà,
d'accord.
Le public est accueilli et est placé par lui-même. Parce qu'on veut tout simplement amener le public à un rapport individuel à la relation qu'il va avoir et au réel.
D'accord.
Et pas, on vient dans une sortie bourgeoise où on se tient la main, on est en couple et on se met, voilà.
Ouais.
Et voilà.
Et on a mis de la peinture douce dessus les choses un petit peu trop dures.
On veut aller dans quelque chose de très brut, le plus brut possible.
À ce propos, vous avez deux affiches. Est-ce qu'on peut voir les deux ou alors qu'il n'y en aura qu'une ? Il y en a une qui est plus douce et une qui est un peu plus dure, plus crue.
Oui, c'est ça. Il y en a une qui fait beaucoup plus documentaire et beaucoup plus apaisée et avec plusieurs scènes. Et puis il y en a une, évidemment, où on voit une partie de la scène qui est visible, qui est cette mère qui se déplace à un moment donné et où on s'aperçoit, où on s'aperçoit de la fragilité aussi de l'organisme, du corps et de ses pertes, de ses fragilités et comment le corps aussi se fragilise avec le temps. Parce que au-delà de ça, le public il est confronté à ce rapport au corps, à ce rapport des organes, à ce rapport organique.
On est tous confrontés.
On l'est tous, mais là, voilà. Là, on montre tout.
Là, on est en face.
On est en face et on est à 2 mètres.
Ah oui, donc on est proche.
Et on est à 2 mètres et on est assis avec eux dans le salon, dans la salle de bain et dans la chambre. Avec eux. Et ça se passe la nuit, le jour, le matin. Il y a des crises parce qu'il faut savoir que cette femme, la mère, a une forme de sénilité précoce.
Précoce, oui.
Et qui a de temps en temps des formes de crises très, très particulières, effectivement. Le rapport au documentaire, c'est la façon dont j'ai travaillé avec les actrices.
D'accord. C'est-à-dire justement. Que, oui. On a parlé de vous, Thierry Alcaraz, oui. Donc l'auteur, metteur en scène. Hein, oui. Mais qui sont les actrices qui
c'est, voilà. Alors, c'est Christine Julien, Nathalie Moins et Emmanuel Villain. Voilà, c'est trois actrices.
Moi, ça je suis pas très simple très à jouer, oui, c'est ce que je veux dire.
Ouais, ouais, puis je suis très très fier parce que, ouais. En fait, c'est un pari. C'est un pari parce qu'il a fallu se dénuder et de travailler énormément, de se dénuder de toute volonté personnelle et d'être au service du ici et maintenant. Parce que le réel, il doit se passer ici et maintenant et le public, il doit s'apercevoir que tout est en train de se construire en même temps devant ses yeux. Donc il n'y a pas de question de jeu théâtralisé. On doit enlever toute théâtralité pour que le public se dise « je suis en train de vivre quelque chose qui n'a pas existé, ce n'est pas une représentation, je suis en train de vivre ». Et donc le travail du non-jeu a été un gros travail, et il a fallu absolument que je leur demande systématiquement, et qu'on a fait un vrai travail, pour être toujours en réaction. Un très bon acteur dans cette forme-là ne joue pas,
elles ont
ne
réagit texte.
Pas, réagit.
Elles ont une base de texte.
Tellement elles ont appris le texte qu'il faut qu'elles puissent le découvrir en elles-mêmes pour qu'elles soient en réaction.
On avec est dans le documentaire, on n'est pas dans la représentation.
Exactement. Celui qui veut être que dans l'action, il est dans une forme de théâtralité au service du texte. Là, il est au service de ce qui se passe en direct et il doit utiliser ce texte comme s'il vient naturellement. Donc l'apprentissage du texte, c'est pour l'oublier, pour mieux l'oublier.
D'accord. Et le spectateur a un rôle aussi.
Bien sûr.
Il va falloir qu'il le tienne.
Le spectateur,
parce
il a un rôle.
Je pense qu'il faut le prendre.
Spectateur, en fait, déjà le terme spectateur, là je pense que c'est plus des voyants, des observateurs, des témoins. Des témoins avec leur regard d'une situation et d'une scène qui se passe. Et effectivement, si on vient se divertir, on est mal barré. C'est pas du tout, on vient pas se divertir, on vient être face à une situation, un témoignage, un rapport à l'autre. Voilà, mais ça reste un vrai challenge. On ne sait pas si on va réussir le jour J. Ça va dépendre évidemment des spectateurs ou des voyants, mais ça va dépendre aussi de cette alchimie, puisqu'on travaille le réel. Le moindre jeu, le moindre problème technique, la moindre chose qui peut arriver, elle va être improvisée, mais il faut que les actrices elles soient dans un état particulier, propre à elles-mêmes, pour toujours être en réaction. Avec le public. Tous les cas, avec des inconnus qui débarquent dans l'appartement. Vous vivez pas avec des gens assis sur les chaises dans votre salon.
Non, jamais. Il faudrait que j'essaye.
C'est pour ça, ne pas perdre ce travail, parce que ça fait tout de même un an qu'on travaille dessus.
Et oui,
un
j'imagine. An. Le boulot est colossal.
Le boulot est colossal. Et c'est pour ça que très peu d'acteurs sont capables de ça. On a beau, professionnel ou amateur, on a beau dire, très très peu d'acteurs ont ce rapport. Ce que j'appelle le spectacle vivant. Sinon, il est mort, quoi. Si on voit qu'il joue, si on voit que c'est forcé, si on voit que c'est marqué, si on voit...
Oui, si théâtralisé, justement, c'est plus tout la même chose. On le verra le 15, le 16 et le 17 mai, si vous nous écoutez, si vous avez envie de prendre une bonne gifle, je pense que on peut dire ça.
Cadeau.
Ça va. Oui, mais c'est important, c'est aussi ça le théâtre.
Oui, oui.
C'est de vivre quelque chose, ressentir quelque chose.
Exactement.
Donc ce sera le 15, le 16, le 17 à 20h30 au Delirium avec des miettes sur la table et le spectacle de Thierry Alcaraz, je peux pas dire un spectacle, le documentaire.
Exactement.
Le documentaire vivant.
Oui, oui.
Merci, monsieur Alcaraz.
Merci beaucoup.